Ouais, on a eu tout un party avec mes amis Bière et Join. Tiens, Join, prends les clés.
Et tu fous, je suis bien trop stone. Hey, Bière!
Ah non, une fois que je prenne pof, je conduis plus.
Reste-toi, Dave!
Puis t'as pris juste quelques verres.
Et puis deux, trois pof.
Non, je conduis jamais quand je bois. C'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus.
Ben, comment on rentre chez nous?
Allez, Dave!
Ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire.
Allô? J'aurais besoin d'un lift.
Un message de Mad Canada.
Bord de la réveilleur Saint-Charles. Boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Shiz 94.3.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'émission 3600 secondes d'histoire. Vous êtes sur les ondes de Chiz 94.3. Mon nom est Annie-Pierre Brunel et je suis accompagnée d'Émy Bois à l'animation. Pour la prochaine heure, on va avoir le plaisir de nous entretenir avec Mme Colline Niesse, qui est muséologue et chargée d'exposition au Musée de la Civilisation. Cette semaine, on va discuter des dessous de l'exposition « Oh merde », une exposition qui est originale puis qui est à la fois sérieuse, ludique, puis qui explore le sujet d'une ressource inépuisable et sous-estimée, les déjections humaines. On va parler d'histoire sociale, de tabous, d'écologie, pour vous prouver que la merde, eh bien, c'est du sérieux. Donc maintenant, sans plus tarder, on accueille notre invitée de ce soir. Bonjour, Mme Niesse.
Bonjour à vous deux.
Nous débutons l'émission avec quelques questions introductives. Donc, d'où a émergé l'idée de constituer une exposition qui va être entièrement dédiée aux matières fécales au Musée de la Civilisation?
Eh bien, en fait, en 2017, on avait fait une première exposition sur le cerveau humain. Et dans le cadre de nos recherches, on avait abordé la relation cerveau et intestin, donc avec le microbiote. Et en creusant un petit peu la question, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette relation-là. Et donc, j'ai proposé en premier lieu un projet qui était plus en lien avec le microbiote intestinal. Et puis, rapidement, je me suis rendu compte que c'était indissociable que de parler du microbiote fécal et donc de la matière. Et je me suis dit, waouh, la merde, hein, on va l'appeler comme elle est. C'est un sujet qui, justement, a une approche multidisciplinaire. Et je trouvais que, justement, pour un musée comme le Musée de la Civilisation, qui est un musée de société, qui essaie de replacer l'humain dans son contexte historique, social, anthropologique, eh bien que c'était un sujet parfaitement choisi pour parler de la complexité de l'homme et de sa relation avec ses déchets, avec son corps. Et j'ai proposé, donc il y a 3 ans, le sujet, donc merde, qui s'appelait caca au début, à la direction. Et puis, je vous avoue qu'il y a eu quand même un petit délai de curiosité et de doute. Mais avec une approche, comme vous l'avez vu dans l'exposition, on a rapidement convaincu la direction du musée, donc, d'inscrire au merde à la programmation pour cette année.
Très intéressant. Et quels étaient les objectifs là, lors de la conception de l'exposition?
On s'est dit justement que dans le contexte muséal, il y avait trop peu ou pas du tout d'expositions qui parlaient clairement de la matière fécale. Donc, on a vraiment orienté les objectifs sur les excréments humains. On n'est pas allé du côté animal, on n'est pas allé tant du côté microbiote, puisqu'il y avait déjà quelques expositions, dont une en Europe sur le microbiote, qui circulait et donc qui abordait le côté plus physiologique, anatomique, clinique du microbiote. Donc rapidement, on a déterminé les objectifs de Omerd, qui était vraiment d'essayer de faire comprendre que la matière fécale est une ressource inépuisable et qu'on pourrait la considérer plus comme une ressource qu'un déchet. Donc ça, c'était notre premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de sensibiliser les gens ou de leur faire retrouver, reconnecter une forme de conscience corporelle, parce qu'on sait que la merde est quand même un sujet tabou, mal aimé, méconnu, et donc on a tendance à pas le regarder. On a ce geste machinal qui est devenu banal que d'aller à la toilette et de tirer la chasse sans s'en soucier. Donc, plus une reconnexion avec le principe même de la défécation d'un point de vue aussi anthropologique. Et puis, notre objectif, qui est un objectif majeur, c'était de sensibiliser les gens, donc les visiteurs du musée, à l'amplitude et la problématique liée à la gestion des matières fécales, donc à l'ensemble des problèmes sanitaires vécus dans le monde, mais aussi en Occident, en Amérique du Nord, spécifiquement au Québec, la problématique de la raréfaction de l'eau, de la qualité de l'eau, l'inégalité d'accès à des toilettes dans le monde et tous les enjeux donc, qui sont liés à ces problématiques-là.
Bien, c'est très intéressant. On a déjà hâte d'en apprendre plus. C'est déjà l'occasion de notre première pièce musicale de la soirée, donc « Merde à Vauban » de Léo Ferré. Bonne écoute.
Bagnard au bagne de Vauban, dans l'île de Ré, je mange du pain noir et des murs blancs dans l'île de Ré. À la ville m'attend ma mignonne mère, dans 20 ans pour elle, je ne serai plus personne. Merde à Vauban.
Merde à Vauban.
Bagnard, je suis chêne et boulet, tout ça pour rien, ils m'ont serré dans l'île de Ré, c'est pour mon bien. On y voit passer les nuages qui vont crevant, moi je vois se faner la fleur de l'âge. Merde à Vauban.
Merde à Vauban.
Bagnard, ici les demoiselles dans l'île de Ré s'approchent pour voir rogner nos ailes dans l'île de Ré. Ah, que jamais ne vienne celle que j'aimais tant pour elle. J'ai manqué la belle. Merde à Vauban. Bagnard, la belle, elle est là-haut dans le ciel gris, elle s'en va derrière les barreaux jusqu'à Paris. Moi, je suis au mitard avec elle tout en rêvant à mon amour qui est la plus belle. Merde à Vauban.
Merde à Vauban.
Bagnard, le temps qui t'en s'allonge dans l'île de Ré, avec ses poules t'en te ronge dans l'île de Ré. Où sont ses yeux, où est sa bouche avec le vent? On dirait parfois que je les touche. Merde à Vauban. C'est un petit corbillard tout noir, étroit et vieux qui sort.
Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire pour une émission sur l'exposition « Oh merde » en compagnie de Colline Nièce. Madame Nièce, si vous aviez à décrire l'exposition en quelques mots, comment vous la décririez?
Alors j'espère que je vais donner aussi envie aux gens qui nous écoutent d'aller la visiter. Il faut penser que au Musée de la Civilisation, on aime vraiment les environnements très immersifs. Et spécifiquement pour l'exposition aux merdes, on a travaillé beaucoup, beaucoup sur les décors et la scénographie. Vous êtes accueillis, en fait, déjà par un référent culturel que tout le monde connaît bien, donc une belle toilette blanche. Mais si vous avez pu le voir, il y a déjà quelque chose qui sème un peu la curiosité ou le questionnement, c'est qu'on est accueillis avec un étron doré qui flotte dans la cuvette. Déjà pour sensibiliser les gens ou en tout cas piquer leur curiosité par rapport à la notion de la ressource et de la préciosité. Vous allez être plongé rapidement dans une première zone qui va vous permettre de découvrir de nombreux objets, des collections anciennes du séminaire, des œuvres d'art contemporain. Donc une approche très multidisciplinaire sur l'histoire de la défécation, l'histoire des toilettes, la relation au corps, la mythologie. Donc beaucoup, beaucoup beaucoup de contenu. On a un petit clin d'œil aussi quant au microbiote, à la fameuse échelle de Bristol, cette fameuse échelle qui répertorie les 7 types d'étrons. Vous pourrez choisir même vos types de crottes en fonction de l'échelle. Donc, des stratégies de jeu, d'observation, de découverte, et puis une des zones aussi qu'on aime bien de l'exposition, dans un décor très immersif qui a été fait grâce à la création d'une scénographe qui s'appelle Véronique Bertrand, une scénographe de théâtre. Donc elle a conçu 8 écosystèmes, donc des environnements très scéniques qui nous permet de rentrer dans 8 types de toilettes à travers le monde. Et puis, on termine l'exposition sur une CAC arcade, donc une arcade de jeux vidéo. On a vraiment fait plaisir à nos jeunes visiteurs et à nos jeunes adultes. Donc, des consoles de jeux vidéo autour de la mer, de la gestion fécale, de la pollution hydrique, du microbiote. Et avant la sortie, on a tout ce qui est en lien avec la revalorisation, la diversité des produits liés à la transformation des excréments humains ou de l'urine. Et puis un petit clin d'œil à travers notre salle de PET, qui est une salle de médiation pour les familles, mais aussi pour le grand public, qui nous permet notamment de tester notre PET. Donc beaucoup de jeux, beaucoup de découvertes, beaucoup d'interactions.
Une exposition très, très riche à ce qu'on comprend. Puis ben, on a eu la chance, moi et Annie-Pierre, de visiter cette exposition. Donc, rentrons en fait dans le survol de l'exposition ensemble. Parlons de merdre. Faisons un survol historique de notre rapport aux excréments. Donc, la première partie de l'exposition explore différentes représentations de la merde dans l'imaginaire collectif occidental. On y apprend que les déjections humaines n'ont pas toujours été un sujet tabou. Comment était le rapport aux excréments pendant l'Antiquité?
Eh bien, effectivement, vous aviez raison. Cette relation au corps était bien différente d'aujourd'hui. Puis il faut aussi avoir une approche aussi un petit peu plus historique par civilisation, puisqu'on avait ce rapport-là, mais je veux dire, ce rapport qui n'était pas tabou. Dans l'Antiquité, par exemple, à l'époque romaine, on avait ce qu'on avait les latrines collectives romaines. Donc, c'était des toilettes publiques, une des premières inventions d'évacuation des matières fécales par l'eau. Et donc, là, c'était des toilettes collectives. Donc, on y allait... pas en groupe, mais en tout cas, on se retrouvait avec des, c'est ça, avec des citoyens romains. On ne saura jamais de quoi ils discutaient, mais c'est ça, c'est pas dérangeant, mais ça nous amène à comprendre que le rapport de l'intimité pouvait être collectif, par exemple. Puis dans d'autres civilisations, comme en Inde ancienne ou en Chine, il y avait de la mythologie liée aussi à des déesses liées aux excréments, au fumier, comme une matière riche, une matière féconde aussi. Et donc un rapport beaucoup plus organique, beaucoup plus physiologique, rapport qu'on a perdu avec les années, finalement.
Puis, à quel moment ce rapport-là est devenu conflictuel, plus intime, plus personnel, plutôt que collectif?
Ben justement, en fait, on pense que l'idée de scinder ce qui était le haut de l'esprit, du corps, donc associé à l'esprit, à l'intellect, du bas du corps, plus organique, qui était considéré comme vil, comme sale, mais c'est arrivé avec certains conciles dans la religion catholique, où il a fallu faire table rase de toute la culture païenne occidentale. Donc on a associé forcément le bas du corps à quelque chose de sale, et puis... au Moyen-Âge, il n'y avait pas de système d'évacuation d'égouts, les pots de chambre étaient vidés par les fenêtres, il y avait des fosses, donc quand même beaucoup de problématiques reliées à l'hygiène. Et c'est notamment l'avènement de l'hygiène, en fait, qui a forcé, naturellement et dans le bon sens, aussi une relation donc plus distanciée. Il y a une petite alarme qui sonne, tu vois? Oui, une relation plus distanciée du corps est arrivée. Donc les fameux cabinets d'aisance qui sont devenus des lieux plus d'intimité, de salubrité aussi. Donc une relation effectivement avec les excréments qui a évolué avec le temps. Aujourd'hui, il est encore tabou, même si dans certaines cultures comme le Japon ou la Corée du Nord, on a une considération plus naturelle. naturel, plus organique, mais qui est aussi paradoxal. Il y a des choses à dire par rapport à ça. Donc, un sujet encore tabou, mais quand même de plus en plus quand même connu. Avec l'avènement du bien-être et de la conscience corporelle, on est plus enclin à regarder, en tout cas, son numéro 2.
On a parlé un peu du rôle de l'Église, en fait, brièvement. Vous avez mentionné l'Église catholique. Donc, comment l'Église a-t-elle joué un rôle dans le changement de paradigme? Parce qu'avant, la crotte, c'était intime, c'était... en fait, c'était pas intime, c'était collectif. Mais là, il y a un changement qui se fait. La merde devient intime, devient personnelle. C'est un rapport, finalement, conflictuel. Quel rôle l'Église a joué là-dedans?
Mais comme je le disais tantôt, la merde était associée au côté païen, au côté organique, au côté sale, au côté ville. Donc, je me souviens plus spécifiquement sur quel concile, mais quel type de traité ou de quel archevêche. Mais on voit même dans les bâtisseurs des cathédrales, dans les chapiteaux d'église romane, il y a des fameux chieurs qui étaient associés aussi à la chance. J'ai pas la langue à fourcher.
Allons-y, tandis qu'on parle de merde. Hein?
Et donc, là, on le voit aussi ensuite plus tard dans les décors des chapiteaux. Ce sont des éléments qui sont complètement effacés ensuite de l'iconographie. On a même des tableaux comme Bruegel où on a des scènes de vie populaire que ensuite l'Église va souvent repeindre, ou des scènes... En fait, c'est associé aussi à une forme de nudité, une forme de sexualité, et donc l'Église vient mettre sa chape de plomb, le côté judéo-chrétien qui vient effacer donc toute cette relation au corps. Probablement, je n'ai pas de date exacte, mais après la Renaissance.
Puis l'exposition aux merdes, on l'a vu, mobilise aussi une grande variété d'objets qui sont présentés comme les ancêtres de nos toilettes actuelles. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur l'évolution des pratiques puis les objets qu'on peut admirer dans l'exposition?
Oui, alors on peut voir, on a une belle vitrine sur les pots de chambre qui font partie notamment de la collection du séminaire. Donc on en a des anciens, des plus modernes. Les pots de chambre, probablement qui devaient être en bois à l'époque plus médiévale, puis ensuite Renaissance, on a de la facture plus en faïence, puis après plus en métal. Donc les pots de chambre étaient vidés directement dans les rues pendant de nombreux siècles. Puis arrive donc le système des chaises percées, donc ces petits cabinets d'aisance qui n'étaient pas encore dans des lieux fermés, qui restaient dans les lieux ouverts. On peut voir notamment dans la vitrine de la première zone de l'exposition à quel point ces objets témoignent aussi du rang social de leurs propriétaires. On a des chaises percées très rustiques, très anciennes. On a notamment une des plus anciennes chaises percées de la collection du séminaire, qui est très, très patinée. On peut imaginer le nombre de fesses qui a dû s'asseoir dessus. Et on a des cabinets beaucoup plus ouvragés, en bois précieux, donc où on sent que tranquillement, donc la relation au corps devient plus intime, où il faut que ce soit quelque chose de vite fait, de propre, de caché. On a des rabats qui s'installent sur les chaises percées, donc pour cacher la matière. Et puis par rapport à l'avènement donc de l'objet toilette en soi, on a des inventions qui vont se succéder même à partir du 16e. Ensuite, ça vient, les brevets se déposent plus au 19e, mais on a une reproduction dans l'exposition de ce qu'on appelle le Earth's Closet d'Henry Moule, qui est comme la première toilette à chasse sèche, donc qui utilise un système de dépôt de terre qui se fait mécaniquement cette fois-ci, et donc qui vient finalement qui vient tomber sur la matière fécale et qui permet donc au moins d'avoir une vidange, d'espacer les vidanges que dans un pot de chambre, tout simplement. Puis ça se fait de manière un peu plus mécanique. Puis après, on pourra parler aussi de l'avènement donc des toilettes, comme on les connaît aujourd'hui, gourmandes en eau.
On a peu abordé le rapport au dégoût jusqu'à maintenant. Donc, l'exposition nous permet d'en apprendre plus sur... En fait, tu questionnes le rapport au dégoût. Les visiteurs peuvent humer différentes odeurs grâce à une installation olfactive. Donc, de quoi s'agit-il?
Il s'agit d'une commande, en fait, d'une œuvre d'art, puisque on aime bien marier les différentes disciplines au Musée de la civilisation. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas... challenger le visiteur quant à sa relation aux odeurs, mais à travers une œuvre d'art. Donc, on a fait appel à une artiste allemande qui s'appelle Sissel Tolas, qui expose dans nombreuses galeries et réseaux de musées au niveau international. Et elle, son dada, c'est de créer et de reproduire toutes les odeurs possibles et inimaginables sur la Terre, en questionnant notre rapport très intime et très profond en nous. Et spécifiquement pour Homer, on lui a demandé de créer des odeurs de caca, vous pouvez vous en douter, mais en déstructurant un petit peu la composition moléculaire. Qu'est-ce qui fait qu'une odeur va nous dégoûter? Qu'est-ce qui fait qu'elle est répulsive? Et donc, on pose la question directement aux visiteurs. Est-ce que, selon vous, le dégoût est une émotion qui est innée ou est-ce qu'elle est acquise? Et donc, j'ai envie de vous dire la réponse quand même, si vous le voulez. Il y a des études, effectivement, qui prouvent que notre relation aux odeurs désagréables et au dégoût est en fait apprise. C'est vraiment un contexte et une mémoire associative de nos propres expériences du moment qu'on sort du ventre de notre mère jusqu'à plus tard. C'est vraiment des contextes socioculturels qui vont nous apprendre à être répulsé par une odeur ou pas. On a fait l'expérience, par exemple, avec des nourrissons. Je pourrais pas vous citer l'étude scientifique, mais elle a été publiée récemment, où, en fait, on se rend compte que les nourrissons ne sont pas capables de distinguer une odeur agréable d'une odeur désagréable. Et donc, c'est par l'acquisition de connaissances qu'on leur apprend, que l'environnement apprend. Et encore plus, on va être conditionné au contexte dans lequel on va humer l'odeur. Par exemple, dans l'exposition, tout le monde sait d'avance qu'ils vont sentir du caca, donc les réactions des visiteurs sont immédiates, les gens sont évidemment dégoûtés. Et les chercheurs, donc, pour prouver ça, ont fait l'expérience avec du parmesan et du vomi. Donc, ils ont pris 100 personnes, ils ont fait humer du parmesan avec écrit parmesan sur l'étiquette à 50 personnes, ils ont fait humer une odeur de vomi avec écrit vomi sur l'étiquette. Donc, les gens savaient à quoi s'attendre. Et donc, forcément, on peut deviner que les gens, bon, un petit pourcentage qui n'a pas aimé l'odeur du parmesan, mais qui s'en est délecté, les 50 autres pourcents sont à 100% été repoussés. Et quand on a dit aux 50 personnes qui avaient humé du vomi qu'ils avaient eux aussi humé du parmesan, ben, ils n'y croyaient pas. Ils disaient, non, c'était du vomi. Donc, comme quoi, on est conditionné aussi par rapport au contexte dans lequel l'expérience se produit. Donc, effectivement, dans Homer, tout ça pour vous expliquer que vous pourrez être challengé par rapport à votre relation aux odeurs.
Tout à fait, effectivement, ben, c'est tout à fait contextuel, notre rapport aux odeurs. On s'en est bien rendu compte, Amy et moi, en assistant à l'exposition. On a été un peu confrontés, nous aussi, à cette expérience-là. Écoutez, c'est maintenant le temps de la deuxième pause publicitaire. Donc, on vous laisse en musique avec « Smell the Roses » de Roger Waters.
Wake up and smell the roses. Close your eyes and pray this wind don't change. There's nothing but screams in the field of dreams. Nothing but hope at the end of the road. Nothing but gold in the chimney smoke. Come on, honey, it's real money. Your name on the bone. Here's where they bury the buts and the ifs and scratch out words like lifelong. Wake up,
and smell the phosphorus. This is the moon we keep a human head. Don't ask, don't tell, it could mean a loss for us. Yeah, little is cash in the stash in the cupboard at the bottom of the stair. Money, honey.
Cherche une sortie? Chiz 94.3 te convie à la Fête de la musique de Québec qui est de retour pour une 14e édition et ça promet d'être capoté. Du 3 au 5 septembre prochain, 37 bands locaux répartis sur 3 scènes extérieures embelliront les oreilles du quartier Saint-Jean-Baptiste. Et oui, c'est gratuit. Tu vas pouvoir découvrir ou retomber en amour avec des groupes que t'aimes gratuitement dans Saint-Jean-Baptiste. Plus de détails sur la page Facebook et Instagram de la Fête de la musique de Québec. On se voit là!
Ah. La vérité est aveugle, les apparences nous mentent. T'as reconnu mon parfum, paraît que l'argent nous change. Tout le monde est remplaçable, carrière interrompue.
La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici? Écoute locale, la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis, 14h, sur les ondes de Chiz 94.3. c'est toujours mieux d'écouter local.
The following program is disturbing.
Crash Crowd.
Mardi 20h. Chiz 94.3.
D'écoute!
Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun, mais t'as fait le tour pas mal vite, pis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi.
Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui se sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salons attachants, on te promet de te faire voyager sans trop terminer.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Cheers 94.3.
Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire pour une émission sur l'exposition « Au merde » présentée au Musée de la civilisation en compagnie de Colin Nies. Dans la première partie de l'exposition, on pouvait admirer de nombreux objets de la collection puis en apprendre plus sur les principaux référents occidentaux reliés à la merde. Puis la seconde partie de l'exposition est un peu plus immersive. Elle va permettre aux visiteurs de déambuler à travers 8 environnements de défécation intime ou collectif. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus de ces environnements-là?
Oui, tout à fait. Donc, on commence avec un environnement plus historique, finalement, pour y aller de manière progressive et presque chronologique. Donc, le premier écosystème qu'on découvre, on l'appelle le cacaboulum. C'est un environnement qui reproduit une latrine publique romaine, donc une toilette collective qui est datée à peu près du premier siècle de notre ère. Elle a été conçue à partir d'un plan archéologique, donc c'est à partir d'un relevé archéologique de Nice-Cimier en France. Et donc, on y découvre que les Romains déféquaient en groupe et utilisaient le principe de l'évacuation de la matière fécale par l'eau, puisque les latrines étaient situées principalement à côté des thermes, donc ces bains romains dans lesquels les citoyens passaient de longues heures. Et il arrivait toujours un temps, donc on avait besoin de se soulager. Et donc, les premières latrines publiques ont été attenantes au terme. Et donc, on récupérait l'eau des bains pour évacuer la matière fécale qui, elle, ensuite, était collectée par le premier système d'égout qui a été inventé donc, à Rome avec la fameuse Cloaca Maxima qui, elle, ensuite, se déversait dans une rivière plus bas dans le sud de Rome. Ensuite, on appelle le visiteur à rentrer à un environnement qu'on appelle air libre, qui malheureusement nous confronte d'emblée à la problématique de la défécation à l'air libre, ou ce qu'on appelle la défécation sauvage, c'est-à-dire que ce sont ce près de milliards de personnes qui sont contraintes à la défécation à l'air libre par jour. On rentre dans cet environnement qui reproduit en fait un bidonville de Vanaradi en Inde. Et on est en immersion 3D, donc il y a un mapping en projection tout autour du visiteur qui nous plonge littéralement dans un décor très percutant où on se rend compte que, effectivement, le simple geste d'aller à la toilette n'est pas commun à l'ensemble des mortels et qu'on est très inégal face à ça. Et donc, on est littéralement les deux pieds dans la merde, si je puis dire. Et on peut voir une photographie qui a été publiée dans un photoreportage du New York Times. On voit deux jeunes garçons qui, tristement, doivent se cacher ou trouver un endroit pour pouvoir se soulager. Il faut savoir que c'est près de 670 millions de personnes qui sont contraintes à la défécation par jour, mais c'est près de la moitié de l'humanité qui n'a pas accès à des installations salubres. Donc, on est presque à 3 milliards, 3,5 milliards de personnes qui sont obligées de se soulager dans des installations sanitaire, insalubre ou insécuritaire. Ensuite, on amène le visiteur, par contraste, à poser une réflexion sur son environnement, donc l'American Standard. Donc, on est dans un décor très classique, blanc, propre, carrelé. On a un petit clin d'œil sur ce qu'on appelle, nous, la ligne du temps des objets qui torchent. On propose au visiteur de se questionner sur comment se nettoyait-on les fesses avant l'invention du papier toilette en rouleau. Donc, je vous en dirai pas plus. Allez voir l'expo. On jette aussi une réflexion sur la toilette à chasse d'eau, son brevet d'invention et aujourd'hui le nombre de litres par jour que cet appareil engloutit. Il faut savoir que c'est près d'un tiers de la consommation d'eau potable des ménages au Canada que la toilette engloutit par jour. Ensuite, on voulait aborder un écosystème qui nous parle de toutes les maladies qui sont taboues et qui sont reliées au ventre, au bas-ventre, qui sont vraiment moins glamour que toutes les maladies qu'on entend autour du cerveau, du cœur et du poumon. Donc, ce sont des maladies très taboues dont on parle très peu et pourtant... quand on pense à la maladie de Crohn, à la colite ulcéreuse, au cancer du côlon, ce sont vraiment des centaines de milliers de Canadiens qui vont être impactés par année par ces maladies-là. Puis, comme elles sont reliées à l'intestin, à la défécation, à l'évacuation, on en parle très peu. Donc, on a décidé de montrer des objets très parlants de qu'est-ce que c'est une stomie, qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir des ulcères dans l'intestin, la problématique des gens. Puis, par extension, on voulait aussi faire réfléchir les gens sur la relation au corps en fonction de l'âge et du genre. Comment on passe un peu du beau petit caca de l'enfant du nourrisson qui est beau, qui est un vrai cadeau, puis qui tout à coup devient une vraie merde qu'on ne veut pas voir et qui est complètement évacuée. Et notre rapport avec les aînés qui eux aussi sont liés à cette, contraints à cette incontinence due à la vieillesse du corps. Comment leur rapport aux couches, à la maladie est complètement différent par rapport à l'enfant. Et puis aussi, on parle de la parcoprésie, c'est une condition qu'ont certaines femmes qui s'interdisent littéralement d'aller aux toilettes en dehors de leur domicile et qui occasionne des problématiques qu'on peut deviner. Rapidement aussi, on a invité à traverser un décor immersif autour de ce qu'on appelle le caca nomade. Donc, on l'a appelé aussi « Où l'humain passe, les cacas restent ». Donc, par exemple, où vont les vidanges des VR quand vous partez en vacances ? Comment se fait la vidange dans un camping ? Les 5000 croisiéristes qui débarquent dans le port de Québec à l'automne, mais où vont leurs caca ? Qu'est-ce qu'il fait ? Que fait le bateau ? Est-ce qu'il les vidange ? Comment ça marche ? On a pensé aussi à faire un clin d'œil aux astronautes, en fait, comment eux gèrent la matière fécale et la gestion des déchets à bord de la station spatiale ou dans des missions. Et aussi, par extension, qui est un sujet beaucoup plus triste. On a parlé donc des sans-toilettes, donc de ceux qui voyagent, mais qui sont contraints au voyage, à ce nomadisme, à cette mobilité, et qui ont des problèmes d'accès aux toilettes. Donc, on parle plus précisément des sans-abri. Puis, on a voulu mettre l'accent sur le Québec, les sans-abri à Montréal et à Québec. Ensuite, on a un petit clin d'œil sur la toilette japonaise et la fascination qu'ont les Asiatiques, spécifiquement, en fait, les Sud-Coréens, sur le caca, avec l'apparition de l'emoji caca, comment il a dû s'imposer dans Google, comment il a été glamourifié, comment il est devenu cute, pour vraiment le distancier de tous ses aspects organiques. Donc, un clin d'œil à l'Asie avec ça, avec on y présente une toilette intelligente Toto aussi, révolutionnaire. On fait un appel au voyage aussi dans un bel environnement de décor qu'on appelle la Bécosse, un petit peu pour confronter le public québécois avec ses souvenirs de Bécosse et puis lui expliquer la différence avec une toilette sèche à compost, par exemple, c'est quoi la grande différence. Et puis c'est plus un appel au voyage où on est dans un décor immersif qui nous appelle à voyager à travers différents types de Bécosse à travers le monde. Et puis, on termine sur la toilette publique qu'on a voulu comme un espace de liberté d'expression, cet espace un peu refoulé où en fait on vient, où toutes les barrières sociales tombent, où on peut à la fois rencontrer le chef d'entreprise comme la maman qui revient de l'école avec ses enfants, donc un lieu où les barrières sociales tombent, je disais. On y expose aussi les travaux photographiques d'un artiste américain, Stephen Featherstone, qui a photographié l'intérieur des cabinets des toilettes pendant la guerre du Koweït, donc des soldats américains, les toilettes des soldats américains, où on voit vraiment s'écrire un échange, des discussions sur la philosophie, la guerre, l'amour, des échanges que jamais, par exemple, les soldats te permettraient de faire entre eux, mais qui, dans l'espace de la toilette, donc ce lieu reclus, intime, ben, se permettent ce genre de discussion. Voilà, donc ça, c'est vraiment un long corridor, vous l'avez compris, avec beaucoup d'environnement, beaucoup de décors, beaucoup de choses à découvrir, hein, quelque chose de très immersif qui est ponctué aussi de vidéos.
Vous en avez parlé un petit peu du monde asiatique. Donc, au Japon et en Corée du Sud, le rapport aux excréments, on s'en rend compte dans l'exposition, est très, très différent. Comme vous l'avez dit, les coutumes parfois de s'offrir, de faire référence, dans le fond, au caca sous différentes formes et de s'offrir des cadeaux en forme de crotte, que ce soit des toutous, etc. Depuis quelques années, les objets en forme d'émoji de caca, hein, depuis l'arrivée des réseaux sociaux, c'est très populaire, même en Occident. Selon vous, en Occident, depuis l'arrivée des émojis et des réseaux sociaux, justement, le rapport à la crotte est-il moins intime qu'auparavant, alors qu'on texte, qu'on parle, on écoute des vidéos tout en faisant nos besoins? Assiste-t-on donc à un retour vers l'acceptabilité, pardon, de la crotte en Occident?
Je ne suis pas sociologue, je ne pourrais pas nécessairement vous répondre, mais moi, personnellement, je pense que non, parce que à l'inverse, plus on fait d'autres choses que de se concentrer sur un geste naturel qui est de déféquer, moins on s'en rend compte, moins on l'accepte, moins on est à l'écoute de notre corps. Par contre, elle est un petit peu plus partie de nos vies, mais elle fait encore référent à ce côté glamour, léché, cute. Hein, c'est comment on a rendu le caca cute en le mettant rose, pailleté, en offrant des chaussons en emoji rose à sa petite fille en forme de merde. Ça n'a rien à voir avec un véritable étron. Mais ce qui est intéressant, c'est que au Japon, ils ont quand même... ils étaient très... en fait, ils étaient contraints à l'époque à cultiver sur des petites parcelles de terre, à avoir des rendements assez productifs. Il y a quand même beaucoup d'habitants au Japon. Donc, il n'y avait pas beaucoup de déchets. Il y avait beaucoup d'économies circulaires. Ça l'est encore. Donc, même les caca humains ont été récupérés, compostés, servaient d'engrais. Donc, il y avait quand même un rapport très organique à la terre, à la matière. Et puis... en même temps, paradoxalement, avec l'avènement de l'hygiène, il a fallu se détacher de ce côté organique. Et c'est là qu'on a vu l'avènement donc, de l'emoji caca qui témoigne d'une forme, d'un grand paradoxe, selon moi, avec le côté organique où on a pensé à des objets les plus absurdes les uns les autres qui cohabitent sur le marché, à l'intérieur de la maison. Et en même temps, on est très distancié de l'objet, de la matière fécale en même temps. Donc, une forme de paradoxe. L'acceptabilité, la crotte, je dirais non, parce qu'il y a encore trop peu de gens qui savent que ça peut être considéré effectivement comme une ressource. Il y a trop peu de gens qui savent que ça fait pas de sens aujourd'hui en 2021 que de chier dans de l'eau potable. Donc vraiment, il faut s'arrêter, regarder la matière dans les yeux et re-questionner ça, en fait. Donc je pense que oui, avec un virage vert, il y a des choses qui se font, mais on est encore très loin d'une grande majorité. Je veux dire, il y a peu de gens hein, qui Ben, il y a des gens qui compostent, qui sont dans cette optique d'économie circulaire de plus en plus, et ça, il faut s'en féliciter. Mais de là, par exemple, à composter son caca dans un coin de son jardin ou à faire partie d'une collecte à l'échelle d'une municipalité sur la matière fécale, je veux dire, on est loin de ça et c'est dommage.
Effectivement. On n'est pas rendu là encore. Mais peut-être sur une note un petit peu plus triste, on s'est rendu compte en parcourant l'exposition puis en vous écoutant aussi qu'on n'avait pas tous le même accès aux facilités sanitaires, ne serait-ce que d'avoir accès à une toilette privée. C'est pas tout le monde qui l'a. Puis avec la pandémie, peut-être les Québécois ont réalisé également que plusieurs Québécois même n'avaient pas accès à ça. Donc, pourriez-vous nous parler un petit peu des personnes en situation d'itinérance puis de leur rapport aux toilettes?
Mm-hmm. En fait, avant la pandémie, il y avait beaucoup d'accords tacites entre des commerçants et des itinérants. Il y avait comme des dépanneurs qui avaient comme leur itinérant. C'était pas un peu exagéré ce que je dis, mais c'était beaucoup des ententes. Et avec la fermeture de tous ces espaces-là, c'est des milliers de personnes qui se sont retrouvées du jour au lendemain sans accès à des toilettes, à des espaces salubres. Donc, il y a eu beaucoup d'efficacité à l'air libre, hein, comme si on était dans un bidonville de Vanaradi, il ne faut pas s'en cacher, pour avoir rencontré la personne qui en témoigne dans l'exposition. Elle expliquait que, tristement, par exemple, avec le campement qui a eu lieu sur la rue Notre-Dame, là, avec les nombreux itinérants de Montréal qui s'y sont retrouvés, on a vu ressurgir des maladies qui étaient comme la teigne, des maladies parasitaires qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, là, le service hospitalier n'avait pas vu depuis longtemps. Donc, il n'en faut pas beaucoup pour déséquilibrer un écosystème fragile, hein, parce que ces gens-là n'ont pas accès à la salubrité et aux installations sanitaires qu'on connaît. Donc, c'est vraiment une population qui est d'autant plus vulnérable et on n'y pense pas. En fait, quand on pense à l'itinérance, on pense aux premiers besoins comme se nourrir, se vêtir, s'habiller, pouvoir se doucher. Mais aller à la toilette, c'est ça, on n'y pense pas. Et c'est vraiment une énorme contrainte, d'autant plus que quand on a des problèmes de drogue et on a des problèmes aussi liés à la constipation ou à l'inverse, des problèmes de diarrhée. Donc, c'est vraiment des problématiques dont on ne parle jamais, mais qui sont vraiment réelles.
Passons maintenant à la dernière partie de l'émission, les enjeux sociaux, les défis. Donc, la troisième partie de l'exposition nous rappelle qu'aujourd'hui, en 2021, vous l'avez dit tout à l'heure, là, 673 millions de personnes à travers le monde n'ont toujours pas accès à des installations sanitaires. C'est un constat qui est troublant. Selon vous, quels sont les principaux enjeux sociaux mondiaux liés à la gestion des excréments et l'accès à l'eau?
Mais il y en a beaucoup, hein? Ce serait une longue réponse, mais il y a eu tellement un boom démographique, en fait. Les concentrations urbaines, hein, sont vraiment les premiers facteurs où on a, en fait, les institutions, les pouvoirs politiques en place n'ont pas réussi à faire face à cette vague et à l'adaptabilité, à l'adaptation que ces concentrations démographiques ont généré. On parle des grandes villes comme Dakar, comme New Delhi en Inde, donc une problématique d'accès à l'eau. En fait, on a dans ces pays-là, il y a déjà un stress hydrique existant. Et puis, donc, il y a aussi un problème de... Et ça, c'est intéressant, c'était l'ingénieure en génie des eaux qui nous en parlait, qui elle intervient justement dans des camps de réfugiés ou dans des situations d'après-sinistre. Par exemple, elle nous disait, quand on est arrivé après le séisme en Haïti, donc pas celui qui vient d'arriver, celui d'il y a quelques années, la première chose à faire, c'est sécuriser un endroit pour que les gens puissent faire leurs besoins. Ça sert à rien, elle disait, ça ne sert à rien d'acheminer de l'eau, ça ne sert à rien de trouver des emplacements pour les tentes. La première chose qu'on doit faire, c'est sécuriser un endroit pour que les déjections fécales ne contaminent pas toutes les autres installations qui vont être mises en place. Donc ça, c'est vraiment des enjeux aussi liés à l'éducation. C'est-à-dire que quand on a vu son grand-père et son père déféquer à l'air libre et à côté d'un ruisseau, à côté d'une source d'eau, on n'a pas ce réflexe de dire je vais faire attention, il faut que je trouve une toilette, ou tout simplement, il faut que je me lave les mains. Après, donc, on a des problèmes, en fait, de contamination hydrique, d'eau polluée, qui sont vraiment des enjeux majeurs, oui, liés à l'insalubrité, mais aussi à l'éducation des populations. Et on le voit encore, cette même ingénieure nous disait, une fois qu'on a implanté des toilettes, qu'on a sécurisé des zones, donc même après une situation de crise, quand la situation est stable, c'est hyper difficile de faire aller les gens aux toilettes, tout simplement parce que c'est tellement ancré dans leur gène que d'aller dans un buisson ou de faire ça dans un seau, que le plus difficile, c'est de les faire rentrer dans une toilette, de leur faire comprendre que c'est un endroit sécuritaire, salubre, et qu'ils vont pouvoir se laver les mains après. Donc vraiment, il y a tout un travail d'éducation qui nous paraît complètement un peu fou, mais dont on peut pas réaliser quand on n'est pas dedans, en fait. Donc oui, il y a beaucoup d'enjeux sociaux, il y a bien entendu des enjeux économiques, parce que oui, en 2021, on installe encore des installations à eau, mais est-ce que c'est encore la solution à perpétrer? Il y a quand même beaucoup de choses qui se font en termes d'installations sanitaires autosuffisantes. On en parle dans l'exposition, là, les concours qui ont été primés par la fondation Gates, The Reinvent Toilet Challenge, où on voit des jeunes ingénieurs, des jeunes groupes d'étudiants, de jeunes chercheurs qui sont capables d'inventer des systèmes sanitaires autosuffisants, donc qui vont utiliser des systèmes de panneaux solaires, qui peuvent être utilisés sans eau, sans électricité, ou qui vont fonctionner à circuit complètement fermé. Donc, il y a quand même de l'espoir aussi par rapport à l'inégalité d'accès à des toilettes et à une forme de salubrité, mais ça se fait lentement.
Puis si on regarde un peu plus près de nous, à quel type d'enjeux peuvent faire face les communautés autochtones au Québec puis au Canada par rapport à ça?
Alors, je le redis aussi, je ne suis pas une spécialiste là-dessus, mais avec les recherches qu'on a faites, on a vu qu'il y avait un problème d'accès encore à l'eau potable, hein, dans beaucoup de réserves autochtones. Il y a des mises aux normes qui sont pas du tout faites et qui sont vraiment des enjeux liés à la sécurité de l'eau aussi pour ces communautés-là. Il y a l'exemple un peu tristement célèbre de Kitisaki, cette communauté-là n'est pas encore raccordée et a fini par avoir un bloc sanitaire, mais ça reste un bloc sanitaire collectif. On peut imaginer la contrainte que c'est en hiver, une femme seule avec 3-4 enfants qui doit emmener tout le monde aux toilettes parce qu'il y a une personne qui veut y aller et qu'elle ne veut pas laisser ses enfants seuls dans sa maison. Il faut imaginer le froid, la température aussi. Donc, vraiment des problèmes d'accès. Et puis, on parle aussi de la problématique du pergélisol dans les populations plus dans le Grand Nord, hein, où il n'y a pas de système de canalisation, où ce sont des camions-citernes, hein, qui passent de maison en maison, vidanger les fosses. Mais il faut imaginer des fois quand le camion tombe en panne, ou on a des problèmes aussi de choses qui sont gelées. Donc vraiment, et ça nous met face à des problèmes que nous, on ne connaît pas, mais qui prennent une ampleur phénoménale en quelques heures, parce qu'eux n'ont pas ce système d'évacuation que nous, on connaît, et qui sont pris effectivement avec quand même des enjeux de salubrité, quelquefois.
Ça passe tellement vite. En 2-3 minutes, Madame Niès, est-ce que vous voudriez nous parler de la dernière partie de l'exposition où on en vient à se demander et si le caca, ou plutôt l'or brun, était une ressource plutôt qu'un déchet?
Oui, ben ça, c'est le grand message de l'exposition, hein. On a parlé de choses un petit peu quand même tristes et pas très positives, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se font en termes de revalorisation. On parle de biométhanisation, donc de transformer ou de générer du biogaz à partir des biosolides, donc des boues fécales. On parle aussi d'installation de toilettes sèches en milieu collectif ou même en milieu résidentiel. Ça paraît un petit peu fou, mais il y a beaucoup d'exemples qui se font en Europe, à l'échelle résidentielle, mais aussi pendant des festivals où on a choisi de limiter les locations de toilettes toilettes bleues, là, donc ces toilettes chimiques, pour les remplacer par des toilettes sèches. Donc, une revalorisation au niveau de la matière fécale qui peut être des engrais solides, liquides. Dans l'exposition, on montre un exemple de boulettes mélangées à du charbon qui sert de combustible. Le biogaz qui peut être réinjecté, donc, soit dans des circuits de gaz public, soit à l'échelle privée pour cuisiner, se chauffer, s'éclairer même. Donc vraiment une source d'énergie intéressante. Et puis plein d'exemples inusités pour ceux qui voudront voir l'expo. On a même des boucles d'oreilles qui ont été faites à partir des eaux des égouts et des bouteilles d'eau. Donc on peut aujourd'hui recycler l'eau souillée des égouts jusqu'à 7 fois pour la rendre potable et donc la réinjecter dans les circuits de l'eau des villes. Donc de l'espoir.
Définitivement une expo à aller voir aussi, hein?
Oui, oui, on vous encourage à aller la voir. Mais c'est malheureusement déjà tout le temps qu'on avait pour ce soir. Merci beaucoup à notre invitée, Mme Colline Niess. Merci d'avoir accepté notre invitation. Puis, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir à l'émission. Et vous, chers auditeurs et auditrices, si vous souhaitez partager ou réécouter l'émission de ce soir, elle sera disponible dans quelques minutes sur le site de CHIZ et dès demain sur toutes nos plateformes en balado-diffusion. Pour terminer, on se quitte sur la dernière pièce musicale qui s'intitule « Don't go near the water » de Johnny Cash. C'était Amy Bois et Annie-Pierre Brunel à l'animation et c'est toujours un plaisir pour nous de vous accompagner dans ces capsules historiques. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine à 3600 secondes d'histoire.
Don't go near the water, children. See the fish all dead upon the shore. Don't go near the water, 'cause the water isn't water anymore. From the fountains and the mountains comes water running cool and clear and blue. And it comes down from the hills, and it goes down to the towns and passes through. When it gets down to the cities, then the water turns into a dirty gray. 'Cause it's poisoned and polluted by the people as it goes along its way. Don't go near the water, children. See the fish all dead upon the shore. Don't go near the water, 'cause the water isn't water anymore.
I was sitting on the bank of the lake at home fishing with my little boy. I said, "Have you got a bite yet, son?" He said, "No, sir. Have you, Daddy?" I said, "I believe we got a nibble." He said, "Daddy, if we catch a fish, can we cook him and eat him?" I said, "Maybe we better not, son. They say that it may not be safe to eat the fish in this water anymore."
Don't go near the water, children. See the fish all dead upon the shore. Don't go near the water, 'cause the water isn't water anymore. Don't go near the water, children. See the fish all dead upon the shore. Don't go near the water, 'cause the water isn't water anymore. Don't go near the water, children.
Des nouveautés faites au Québec, ici, on en a des tonnes de copies. Vous écoutez CHIZ 94.3 FM à Québec. Pour découvrir les artistes de la ville de Québec, écoute CHIZ 94.3.
Écoute locale, écoute CHIZ.
Taking a shitty
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du Réchaud sur les ondes de Chiz 94.3.
Du lundi au vendredi, 16h à 17h30, on se retrouve sur les ondes de Chiz pour parler d'art et de culture. Avec des entrevues exclusives, des chroniques originales et des reportages sur le terrain, je m'engage à vous partager le meilleur de la culture émergente québécoise. Chérie, j'arrive tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
How can only call tonight? I wish I was with her. Yeah, we'd be getting by tonight. Instead.